Shake. Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminer ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle des cheminements des sables, des électrons, on parle des cheminements de la Lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles qui font bouger les lignes de la santé des femmes, celles qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodleck. Bienvenue dans Cheminement. Aujourd'hui, je voudrais vous faire écouter un épisode qui est très important pour moi. Il raconte l'histoire de Jerry. Jerry, c'est ma grand-mère, et depuis que je suis toute petite, elle me parle librement. Cela fait maintenant une quarantaine d'années qu'elle n'a pas bu une seule goutte d'alcool, et ça, c'est grâce au programme des Alcooliques Anonymes. Dans cet épisode, elle explique avec sincérité les blessures de son passé, mais aussi les difficultés qu'elle a rencontrées. Surtout, elle livre un grand message d'espoir à toutes les femmes et tous les hommes qui l'écoutent. Cet épisode a reçu le prix du jury de Paroles de Patients, une plateforme qui vise à rendre visibles les témoignages des patients. Bonne écoute.
Bonjour, je m'appelle Jerry et je dis qu'est-ce qui est la vérité, je suis un alcoolique. Je n'ai pas bu depuis 39 ans grâce à le programme des Alcooliques Anonymes. Je vous raconterai ma vie telle qu'elle était passée dans cette maladie. Ça a commencé, ma vie a commencé dans une petite ville dans le sud des États-Unis, dans le Mississippi. Ma famille était des gens très, très modestes. J'étais une petite fille comme tous les petits-enfants à cette époque. J'allais à l'école, mes parents travaillaient et j'avais une nurse de couleur africaine que j'adorais. Elle était ma seconde maman. Je suis allée à l'école et comme tous les enfants, je n'étais pas très bonne élève, je n'aimais pas beaucoup ça. Je n'aimais pas beaucoup l'école, mais j'ai quand même allé juste avant le baccalauréat. Et là, un jour, à l'âge de 17 ans, j'ai rencontré un garçon, un Français, qui était un officier de marine. Et tous les deux, nous nous sommes tombés amoureux. Lui, il était jeune aussi, il avait 25 ans. Et nous nous sommes mariés en Amérique, où mon époux travaillait encore avec la marine américaine. Il apprenait à piloter. Il sortait de naval, il était brillant dans ses études. Il était sorti dans le meilleur de sa promotion. Nous sommes partis en France en 1946 avec un bateau de troupes parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. Et mon mari devait entrer en France pour continuer sa carrière. Notre mariage étant très jeune et on avait beaucoup de difficultés pour trouver des maisons. C'était pas très, très facile en France, mais nous sommes partis après en Tunisie où mon mari devait travailler. Et par chance, sa famille était de Tunis. Son père italien, sa maman française, ils habitaient à Tunis et pour nous, ça nous a facilité beaucoup de choses. Mais dites, je voulais l'alcool dans cette histoire, elle n'est pas encore arrivée. J'ai eu 3 enfants sans difficulté, sans jamais avoir bu. À 27 ans, je me trouvais enceinte avec un 4e. Petit bébé qui avait été, je dirais, tel que c'était un accident dû au médecin qui s'était pas rendu compte que le bébé était à terme. Et cette petite fille, encore une autre petite fille, est née morte. J'ai failli mourir parce que il y avait un début d'infection. Après ça, après cette terrible aventure avec la mort de ce bébé, j'ai tombé dans une dépression. Je m'occupais de mes trois petites filles qui avaient commencé à l'école, mais ma vie était très triste. Dans la journée, quand les enfants n'étaient pas là, je ne pensais tout le temps à ce petit bébé. Ma belle-mère, qui était une femme très gentille avec moi, me voyant très, très fatiguée et maigrissant, et elle a suggéré que je bois un verre de vin le matin, à midi, et un verre le soir. Et pensant, comme les Français pensent toujours d'ailleurs, que ça pouvait me donner de l'appétit pour manger et peut-être m'améliorer un peu cette dépression. Et c'est comme ça que mon problème avec l'alcool a commencé. Maintenant, j'explique que ce n'est pas parce que j'ai perdu un bébé que je suis devenue alcoolique. Ce n'est pas du tout ça. Il y a des millions de femmes qui ont ce même problème de perdre un enfant et ne deviennent pas alcooliques. Je pense, et c'est mon idée, que nous, les alcooliques, on quelque chose dans notre cerveau que fait que les addictions, ou ça soit l'alcool, médicaments, sexe, n'importe quoi, les addictions sont plus faciles pour nous et on ne sait pas pourquoi. C'est une idée qui me vient à moi et souvent je l'ai partagée avec des médecins. Alors, ça n'était pas dur au début, c'est du stade d'alcool. Il ne faut pas croire que tout de suite je devais être morte, ce n'est pas ça du tout. Pendant 10 ans, je pouvais boire en contrôlant mon alcool, c'est-à-dire que je savais très bien quand il fallait s'arrêter. Pendant 10 ans, ça c'est... Je ne dis pas que c'était pas... Il n'y avait pas quand même des sauts d'humeur, des choses changées, mais c'était, je pouvais vivre normalement. Et puis, vers la 11, 12e année, ça a commencé à se dégrader. C'est-à-dire que je devenais exubérante, voulant être le centre du monde. C'était moi qui devais tout décider dans mon ménage, mon mari et moi. Ça commençait d'aller pas bien du tout. À cause de cet alcool qui m'a changé complètement ma personnalité. Les années ont passé, ça continue à dégrader, jusqu'à l'âge de 40 ans. De 40 à 50 ans, j'ai perdu ma vie complètement. Je m'occupais de mes enfants, mais j'avais plus de vie. J'avais plus de vie, il y avait une seule chose qui comptait, la bouteille. Et malheureusement, j'ai aussi lâché du vin que j'avais toujours bu et je suis entrée dans le whisky. Commencé à boire, je pouvais être capable de boire la moitié d'une bouteille de scotch en 24 heures. C'était beaucoup pour une femme qui était... J'étais toujours très, très mince, très... Et puis je ne mangeais pas. Je buvais. C'est peut-être pour ça que je restais très mince, parce que je ne consommais pas de nourriture. De temps en temps, un petit sandwich, un fruit, mais je n'avais pas faim. Le sucre dans l'alcool vous donne tout ce que vous avez besoin pour vivre. Un jour, j'étais tombée tellement malade que j'ai deux amies, des femmes de marins comme moi, qui sont venues me chercher, qui m'ont emmenée voir un médecin qu'elles avaient trouvé. à Paris, un jeune médecin, extrêmement gentil. Et il a écouté mon histoire, que j'ai dit, oui docteur, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas arrêter de boire. Je bois tout le temps. Je bois dans ma cuisine, derrière la porte. Je ne fais que ça. Et alors, il a réfléchi, il m'a dit, ah bon, il m'a donné quelques médicaments. Et ça n'a pas du tout marché, je n'ai pas arrêté quoi que ce soit. Et je l'ai téléphoné le matin en lui disant, docteur, je vais mourir. Il habitait pas loin de chez moi à Paris. Il habitait rue d'Assas, il n'était pas très loin. Ma petite fille, ma dernière fille, les autres étaient tous mariés. Mais ma dernière fille avait 16 ans, 17 ans. 16 ans. Elle était à sa dernière année de lycée. Elle était extrêmement gentille avec sa mère. Elle s'en rendait compte que j'étais pas bien. Je dois dire que ma quatrième fille pour moi était toute ma vie. Et à ce moment-là, ce docteur venait me voir, il me trouvait avec ma vieille robe de chambre, mes cheveux défaits, pleurant. Alors un jour, il en avait un peu assez de venir chez moi. Il a dit, habillez-vous, je vais vous emmener voir quelqu'un. Alors, comme j'avais commencé à avoir confiance en cet homme, malgré que jusqu'à présent, rien n'a été fait, je me suis habillée avec un blue jeans, parce que je suis américaine, pense pas, avec un manteau de vison qui traînait par terre, avec l'espoir que je pouvais quand même pas être tellement mal vue, le fait que je buvais. Avec un manteau de vison, on peut tout faire, pense pas. Et je suis arrivée avec ce docteur à l'église américaine et j'ai rencontré un monsieur dans un bureau. Un monsieur qui était fort beau, très, très calme et qui me regardait avec un air de, je dirais un air d'amour, un amour en secouant la tête et en me disant, Jerry, assieds-toi, on va parler. Tu vas me dire qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit, docteur, je l'ai appelé docteur parce qu'il n'était pas docteur, il était, c'est assez drôle, il était pilote aussi. Et il me disait, avec une bouteille de scotch dans le ventre, il me disait ça. Il m'a dit, je suis un alcoolique aussi, mais je ne bois plus depuis très très longtemps. Et j'ai dit, mais comment est-ce que vous avez fait? Tu peux me tutoyer, on va devenir très amis, il m'a dit. Ça m'avait un peu choqué. Bon, je suis avec mon manteau de vison, tutoyer tout de suite. Et il a commencé à me parler de lui. Et son histoire ressemblait tellement à la mienne, la façon qu'il vivait, que je me suis dit, c'est pas possible. C'était pas on était femme et homme, mais on se ressemblait. Dans la façon qu'on buvait. Le fait qu'on ne pouvait pas arrêter. On pouvait faire n'importe quoi, mais l'alcool passait avant. Je sais, mon mari m'a offert tout pour arrêter de boire. Tu veux quelque chose, tu veux une nouvelle, tu veux quelque chose de matériel. Non, c'était pas ça. Et lui, c'était pareil. Eh bien voilà, ça commence comme ça. Cette organisation s'appelle les Alcooliques Anonymes. Je vous dirais juste que c'est avec ces gens-là que je me suis sortie de l'alcool. La chose qu'on apprend à faire là, chez les AA, c'est de s'aimer les uns et les autres, et d'écouter avec tous nos cœurs les problèmes de nos amis. Ça a marché comme ça. J'ai connu beaucoup, beaucoup de gens. J'ai aidé beaucoup, beaucoup de gens, comme eux, ils m'ont aidé. J'ai eu peut-être une trentaine de filles. Beaucoup sont des femmes maintenant qui sont en sortie de l'alcool. Il y en a d'autres qui sont morts. J'ai appris beaucoup de choses de la vie avec ces gens. Il y en avait des riches et des pauvres. En fait, mon meilleur ami, c'était un clochard. Il était celui-là qui m'a dit quelque chose qui m'a resté dans mon cœur. Il m'a dit, c'est pas en pensant que tu es la meilleure que tu gagneras. Oublie ton orgueil. Ce clochard, qui était dans la rue, il venait avec nous, on lui avait beaucoup de respect, il ne buvait plus. On avait beaucoup de respect pour lui parce que, habillé comme il pouvait, il n'avait pas beaucoup d'argent et on n'avait pas le droit de lui en donner. Le nombre de gens qu'ils ont aidés, c'était comme ça. J'ai connu l'ambassadeur d'Irlande, qui était un alcoolique aussi. C'était exactement la même chose. Le sentiment que j'ai pour ces gens, c'était pareil. Voilà, les années ont passé. Comme je vous disais, j'ai 39 ans bientôt. Au mois d'avril, j'aurai 39 ans d'abstinence sans jamais avoir touché ni alcool, ni drogue, ni médicaments, ni quoi que ce soit. Tout ça en allant avec mes amis et en travaillant plus tard avec un de mes amis qui était médecin. Et on allait dans les hôpitaux chez les internes pour les parler de l'alcool. Qu'est-ce que je devais faire là, devant ces jeunes médecins qui n'étaient pas encore médecins, mais qui étaient dans les cinquième ou sixième années de médecine? C'était raconter qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est tout ce que je devais faire. Et je l'ai fait, et je dois dire qu'on m'écoutait. Qu'est-ce qui s'est donné après? Est-ce que ça a aidé? Je ne sais pas. Maintenant, j'ai 90 ans, je vais toujours en AA, de temps en temps, pas régulièrement. Mon téléphone est toujours libre pour les amis qui ont besoin de moi. Et je dois dire que j'ai une vie grâce à la sobriété. Depuis l'âge de 52 ans, où j'étais devenue sauve, j'ai eu une vie heureuse avec des enfants que j'adore. Un mari qui est toujours là. C'est pas toujours formidable, mais avec l'aide de mes amis, je peux supporter. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je voudrais vous dire que pour nous les femmes, l'alcoolisme, c'est pas la même chose que pour les hommes. Nous, on se sent diminué physiquement et mentalement avec l'alcool. Parce que nous sommes des femmes. On n'a pas le droit de boire dans la société. Ça commence à changer maintenant, mais quand je suis arrivée, une femme ne buvait pas. Voilà, et j'espère que ces mots vous aideraient. Merci beaucoup de m'avoir écouté.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, parlez-en à vos mères, vos amis, vos voisines, vos collègues, vos sœurs. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, produit d'autres podcasts qui parlent de santé des femmes. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.